Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 6h45, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Nous sommes avec Camille Escudé, chercheuse à l'IFRI, il sera question de l'Arctique.
Et oui, de l'Arctique, puisque d'un côté, certaines banques qui sont au One Planet Summit à Paris sont prises dans le verdissement de leurs investissements, elles se dégagent des forages en Arctique. Et puis de l'autre, on le disait tout à l'heure, c'est un peu la ruée sur l'Arctique ces dernières semaines. Bonjour Camille Escudé.
Bonjour.
Merci d'être venue ce matin, effectivement chercheuse à l'IFRI. Et spécialiste de l'Arctique, auteur d'ailleurs dans le numéro de dernier numéro de Politique étrangère d'un article sur le Conseil de l'Arctique que vous appelez la force des liens faibles. Alors des projets russes, chinois, canadiens ou norvégiens, il y en a accélérés par le changement climatique. Ce serait historiquement la troisième ou quatrième ruée pour les ressources naturelles de l'Arctique. Juste un chiffre, c'est 30% des ressources gazières naturelles mondiales, mais un article qui comporte de plus en plus une dimension politique et stratégique et des revendications territoriales, une dimension justement politique soigneusement évitée par le Conseil de l'Arctique dont vous parlez, créé en 1996 autour de 8 pays limitrophes, d'abord sur des sujets de coopération technique, un peu comme l'Union européenne, mais aujourd'hui en voie de politisation, jusqu'à quel point, on va le voir. Et puis deuxième aspect juste de cette ruée, sur une région de 14 millions d'habitants, ou 4 si on va au nord du 66e parallèle, hein, le cercle polaire, le nombre d'États qui s'y intéresse et croissant, ce ne sont plus seulement les pays frontaliers. Alors l'Arctique, zone fragile jusqu'ici, protégée par un consensus pacifiste, légaliste et coopératif, symbolisé par ce Conseil de l'Arctique. Justement, vous le dites Camille Escudé, ce Conseil de l'Arctique, au départ des sujets de coopération technique et puis maintenant, une véritable volonté politique ou en tout cas des accords de plus en plus politiques quand même.
Oui, tout à fait. Simplement pour préciser, je suis chercheuse aux séries de Sciences Po, pas à l'IFRI.
Aux séries, excusez-nous et qu'on excuse aussi Sciences Po.
Oui, en fait, quand le Conseil de l'Arctique a été créé en 1996, c'était à la suite d'un certain nombre de réunions de coopération, justement impulsées par Gorbatchev à la fin de la guerre froide. Et le but, c'était de démilitariser, de faire un peu descendre la tension dans cette zone qui était effectivement un point chaud de la guerre froide. Quand le Conseil de l'Arctique a été créé, il a été créé en fait autour des questions d'environnement, de développement durable qui étaient vues comme le plus petit dénominateur commun pour faire s'entendre 8 États de la région dont les deux grands, les États-Unis et la Russie. Ce qui est assez exceptionnel aussi, c'est que au Conseil de l'Arctique ont été invités l'ensemble ou presque des représentants des peuples autochtones de la région, ce qui a permis en fait, ce qui est aussi un moyen de dépolitiser parce que quand les peuples autochtones sont là, en fait, on va pas vraiment parler des choses sérieuses. Et la dernière chose importante, c'est que le travail du Conseil de l'Arctique s'est principalement concentré sur du travail scientifique, technique, grâce à des groupes de travail où sont invités des chercheurs internationaux.
Mais vous le disiez précisément, avec un certain nombre d'accords, 3 je crois, de plus en plus politiques. Le dernier tout récemment, c'est l'accord de Fairbanks sur une entente, sur la continuation en fait de la COP21 en fait.
Absolument. Alors en fait, ce travail scientifique qui était autour de questions très, très techniques de biologie, de faune, de flore, qui est au fait au cœur des prérogatives du Conseil de l'Arctique, disparaît ou en tout cas est un peu nuancé par effectivement des accords de plus en plus techniques qui sont mis en place depuis les années 2010. Donc par exemple autour du search and rescue, de la recherche en cas d'accident polaire, ou encore l'accord sur les oil spills, qui est un moyen de prévenir et surtout de guérir en cas de fuite pétrolière. Et en 2017, au mois d'octobre 2017, a été ratifié l'accord sur la coopération scientifique, qui pourrait paraître un sujet encore très consensuel, très technique, mais quand on regarde de près cet accord, il est question d'ouvrir la souveraineté des États arctiques aux autres États arctiques, et effectivement c'est peut-être un premier pas vers une politisation croissante.
Oui, parce que c'est ça la grande question, c'est le partage de la souveraineté avec une place un peu spéciale justement de ce Conseil de l'Arctique parmi 4 ou 5, on pourrait dire, organisations régionales quand même, avec une utilisation parfois politique, qu'on aurait pu dire un peu opportuniste par la Russie, on aurait pu en parler, mais plutôt, je voulais parler de ce moratoire sur la pêche qui n'a pas été fait par le Conseil de l'Arctique, tout récemment, 1er décembre, pris par 10 pays frontaliers. Voilà une question justement évitée par le Conseil de l'Arctique, disiez-vous, la pêche. Et là, on voit qu'il n'a pas la main encore sur ces questions, donc il n'y a pas une politisation si extrême que ça encore.
Non, tout à fait, ça reste un forum, c'est pas une organisation internationale, et quelque chose d'une structure encore assez souple. Et quand le Conseil de l'Arctique l'Arctique a été créé en 1996, il y a marqué dans les règles de procédure spécifiquement qu'il ne parlera pas des questions ni militaires ni de pêche. Donc les deux sont mis sur le même plan, comme si c'était les deux questions les plus importantes et les plus épineuses. Donc effectivement, ce moratoire sur la pêche qui a eu lieu très récemment, il a été mis en place par seulement 5 des États arctiques, les États, 5 des États du Conseil de l'Arctique qui ont accès directement à l'océan Arctique et un certain nombre d'autres États, et également l'Union Européenne, mais également la Chine, qui se sont saisis, eux, de cet enjeu pour interdire à moyen terme, on va dire, la pêche dans la partie internationale encore de l'océan Arctique, donc autour du cercle polaire jusqu'à 200 kilomètres.
Ouais, le premier accord international de cette ampleur conclu avant la pratique d'une pêche commerciale dans une région située entre mer, c'est ce que disait le ministre de la Pêche canadien. Justement, il y a autre chose qui se développe un peu hors de contrôle, on pourrait dire, du Conseil de l'Arctique ou pas, vous allez nous dire, mais c'est ces intérêts et cet appétit pour les ressources pétrolières qu'on peut mesurer à l'augmentation du nombre de brise-glaces. Je crois qu'il y a des projets pour en construire 4 du côté des États-Unis. Il y en a 3 qui sont lancés, 3 en Russie, 1 en Chine au moins, des brise-glaces pour le Grand Nord. Est-ce que c'est un bon signe justement de cet appétit renouvelé des pays? Et est-ce que le Conseil de l'Arctique, encore une fois, peut gérer, disons, cette course vers l'Arctique?
C'est assurément un signe de l'intérêt international. Après, c'est pas tout à fait la même chose. Les brise-glaces, ils sont là pour ouvrir les routes maritimes. Donc c'est un sujet différent que, effectivement, l'exploitation offshore. Mais comme on l'a vu avec le méthanier Christophe de Margerie, qui a été mis en service très récemment.
Par la Russie.
Par la Russie, tout à fait. Pour servir le projet Yamal, donc dans la péninsule de Yamal en Russie. En fait, c'est le premier méthanier brise-glace, donc il va pouvoir emprunter la route du Nord sans escorte de brise-glace. Alors que jusqu'à présent, la Russie imposait, pour des raisons de sécurité, une escorte de brise-glace dans cette route qui est encore assez fermée. Et donc, en effet, c'est la Russie qui a aujourd'hui la plus grande flotte de brise-glace, plus de 40 brise-glace. Après, le deuxième pays, je crois que c'est la Suède et le Canada, avec seulement 6 brise-glace. Donc la Russie est effectivement extrêmement présente dans ce Grand Nord, à la fois pour les questions de route maritime, puisque c'est pour le plus grand pays du monde un enjeu essentiel, mais également pour les questions d'hydrocarbures.
Ouais, parce qu'il y a effectivement deux enjeux, les ressources naturelles, hydrocarbures ou minières, et puis ces deux passages, nord-ouest et nord-est, qui dégèlent de plus en plus longtemps au cours de l'année. Est-ce que ce Conseil de l'Arctique, alors, n'est pas, puisque j'en parlais dans l'introduction, dépassé aussi par ces nouveaux acteurs, et notamment, donc il y a l'Australie qui construit des brise-glaces, par exemple, mais surtout la Chine, qui a conclu un accord là avec l'Alaska, un accord de 43 milliards de dollars pour un gazoduc, et qui a des projets aussi de routes maritimes, de routes de la glace, comme elle les appelle.
Oui, tout à fait. La Chine, c'est vraiment un acteur extrêmement important aujourd'hui en Arctique. La Chine s'appelle elle-même un quasi-État arctique. Et effectivement, c'est un acteur qui a de très grandes ambitions en Arctique, avec peut-être une façade qui ne serait pas qu'une façade scientifique. Le budget de la recherche polaire a triplé dans les 20 dernières années pour la Chine. Mais je ne pense pas que ça soit seulement une façade. L'aspect scientifique les intéresse vraiment. Mais ceci dit, la Chine est également un acteur économique extrêmement présent, que ce soit effectivement avec ce nouveau projet de pipeline avec les États-Unis, mais également des projets miniers au Groenland, par exemple, ou des projets financiers en Islande, et l'ensemble d'ailleurs des pays, et effectivement la route maritime du Nord, qui passerait par le nord de la Russie pour atteindre l'Europe. Donc tout cet ensemble de facteurs qui font que la Chine est, comme la plupart des pays, comme certains pays asiatiques, est extrêmement présente en Arctique.
Et si on essaye de schématiser, disons, les deux grandes classes d'intérêts qu'il peut y avoir autour de l'Arctique, est-ce qu'on aurait tort de dire voilà, les intérêts économiques faramineux pour la Chine et les intérêts plus stratégiques pour la Russie qui a annoncé une extension de ses positions militaires, des installations de missiles, elle a déjà 6 bases navales et elle prévoit d'en faire plus avec des revendications territoriales, là pour le coup 1 200 000 km² quand même, ça n'est pas rien.
Oui, il s'agit pour la Russie en fait d'agrandir son plateau continental, enfin de donner pardon les preuves que son plateau continental dans l'océan Arctique est plus grand que ce qu'on pense aujourd'hui, pour effectivement revendiquer une partie de l'océan Arctique qui actuellement n'appartient à personne.
Et puis surtout une volonté de contrôle qui peut faire penser un peu à la situation de mer de Chine quand même, plus ou moins.
Oui, tout à fait. Mais ce qui l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout effectivement les routes maritimes, et bien prouver qu'elles appartiennent soit à la Russie pour le cas de la route maritime du Nord, soit au Canada qui a les mêmes ambitions avec moins de moyens pour le passage passage du Nord-Ouest et assurer effectivement leur souveraineté sur ces passages qui pourraient être éventuellement dans les années à venir de très grands enjeux en termes de commerce international.
Bon, à voir ce qui se passera du côté des règlements internationaux. Juste tout dernier point, on a dit aussi les États-Unis et l'Union européenne un peu écartés de cette ruée sur l'Arctique. Ça vous semble juste ou pas ?
Pour l'Union européenne, c'est peut-être davantage le cas. L'Union européenne a essayé de devenir membre du Conseil de l'Arctique, membre observateur. Elle s'est heurtée plusieurs fois à des refus. Aujourd'hui, elle est membre, on va dire, de manière plus informelle, pour ses positions qui sont un petit peu trop, comment dire, trop ambitieuses pour les autres États arctiques. Elle voulait, par exemple, l'Union européenne avait mis en place avait l'objectif de mettre en place un traité, l'équivalent en Arctique du traité sur l'Antarctique, donc quelque chose, une sorte de sanctuaire qui a été très mal vu évidemment de tous les États arctiques, également des positions sur la pêche, mais également sur le commerce des produits issus du phoque, tout un tas de positions assez rigides qui en font peut-être un acteur indésirable bien qu'incontournable pour certains pays arctiques.
Des positions rigides, ce à quoi a répondu le ministre de la Pêche de la Norvège, aucun pays ne souhaite céder des ressources sans rien recevoir en retour, c'est le principe qui prévaut ici, aussi donc en Arctique, qu'on se le dise. Merci en tout cas Camille Escudé, chercheuse au CERI Sciences Po, donc spécialiste de l'Arctique et auteur dans le dernier numéro de Politique étrangère d'un article sur le Conseil de l'Arctique, La force des liens faibles.
Merci beaucoup Xavier Martinet, merci beaucoup Camille Escudé pour cet éclairage. Je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez et vous devriez même podcaster les enjeux internationaux sur les sites franceculture.fr.